Vous écoutez, on lit pour vous.
Une carrière modèle, faite de persévérance et de détermination, un texte d'Aline Van Coppernol, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Dès la petite enfance, Afsa Shahar a été poussée, soutenue pour briller intellectuellement. Si son corps ne lui permettait pas de se mouvoir comme les autres enfants, son esprit s'est aiguisé un peu plus chaque jour, tout au long de sa vie, jusqu'à occuper, à 61 ans, un poste à responsabilité, celui d'ingénieur, chargé de projet à SNC-Lavalin. Une fonction qu'elle occupe, très humblement, comme elle le dit, car pour elle, l'esprit d'équipe prime. Une fonction qu'elle occupe aussi avec le leadership, la compétence, la détermination et la persévérance qui la caractérisent. La vie a été clémente pour moi. Je n'ai jamais été déçue, déclare Afsa Shahar, le sourire aux lèvres. Atteinte du spina bifida depuis la naissance, Afsa a pourtant eu à faire face à de nombreux défis dès son plus jeune âge. Elle a notamment subi une opération dans l'enfance car elle ne ressentait aucune sensation dans les deux pieds. Si elle ne pouvait pas suivre sa sœur et ses deux frères dans leur jeu, elle a toujours considéré avoir eu sa place dans sa famille. « J'étais toujours bien entourée par mes grands-parents, mes cousins, mes cousines. Personne ne me voyait comme différente », se souvient-elle. Et ses parents, son père et sa mère, étaient très présents et l'ont toujours poussée, soutenue. Un support extraordinaire, qualifie-t-elle. Et pour Afsa, c'est ce qui a fait toute la différence. Des jeux intellectuels dès l'enfance. Ses parents lui donnaient des jeux qui ont stimulé son intellect, casse-tête, Scrabble, Monopoly. Les jeux de société et les livres ont fait partie intégrante de son enfance. Je n'avais pas de défis physiques, mais j'ai beaucoup lu. J'avais une bibliothèque très riche. Je ne m'ennuyais jamais. Je peux finir un livre en 2 jours, raconte la douée Afsa. L'ingénieur est né et a passé sa jeunesse au Liban. Elle a étudié et débuté sa carrière à Beyrouth. Douée comme elle était intellectuellement, elle a très bien réussi dans ses études. Et quand il a fallu choisir, à la fin du secondaire, quelle serait la suite, elle avait 2 choix, médecine ou génie. Mes parents m'ont encouragée à étudier en génie car les études étaient plus courtes et je pouvais débuter ma carrière plus vite. J'ai commencé mes études en génie et j'ai bien aimé, décrit-elle. Une carrière dans un milieu masculin. Dans les années 80 et 90, au Liban, le génie était un milieu très masculin. À l'Université américaine de Beyrouth, où Afsa étudiait à la maîtrise, seules 3 femmes étaient inscrites au programme, contre 90 hommes. Ce qui la rendait très fière à l'époque. Pendant les 10 premières années après sa graduation, Afsa a travaillé au Liban avant de venir s'installer avec sa famille au Québec en 1995. Au Moyen-Orient, l'ingénieur se souvient d'un contexte macho, mais pourtant, elle dit avoir été bien accueillie, vivant peu de contraintes ou de discriminations. Les gars étaient très ouverts. Ils aimaient que les femmes posent des questions. Ils aiment le challenge et le leadership. Selon Afsa, qui parle d'expérience, dans son métier, il faut avoir du leadership, il faut savoir bien expliquer, être compétente, prendre en charge la situation, prouver qu'une femme est capable de faire la même chose qu'un homme. Et encore aujourd'hui, dans ses divers emplois au Québec, et depuis 6 ans à SNC-Lavalin, Hafsa doit sans cesse se prouver. Chaque fois qu'elle change de projet, chaque fois qu'elle a un nouveau client, elle doit se prouver. En plus, j'ai une double contrainte, une triple contrainte même. Je suis une femme, immigrante, en situation de handicap. Le fauteuil disparaît. Certaines fois, le fauteuil n'apparaît pas immédiatement. Avec la pandémie, son dernier grand projet a commencé virtuellement. Son client a été surpris quand il l'a vu pour la première fois puisque, sur l'écran, le fauteuil ne se voit pas. Il ne s'attendait pas à me voir en fauteuil roulant. Mais il l'a très bien pris et j'ai appris à me prouver. Maintenant, il ne voit pas la femme en fauteuil, mais il voit la femme à la hauteur, raconte Hafsa, le sourire aux lèvres, apparaissant à la fois humble et fière. Depuis son enfance, Hafsa a toujours fréquenté des écoles régulières. Ses parents avaient les mêmes attentes de résultats envers elle qu'ils ont eues avec leurs autres enfants. Ils n'en attendaient pas moins, en étant exigeants mais pas durs. Cela a forgé le caractère d'Hafsa, qui a été bien préparée pour être une femme de carrière et ne s'est jamais sentie discriminée. Aujourd'hui, l'ingénieure est ambassadrice de l'Ordre des ingénieurs du Québec et œuvre dans les écoles pour encourager les filles à se lancer dans l'ingénierie. La mission qui a été fixée est de recenser 30 % de femmes ingénieures au Québec en 2030. Aujourd'hui, les chiffres se situent entre 20 et 25 %. Hafsa encourage également les parents de joueurs juniors en situation de handicap qu'elle croise dans son club de para-hockey. Je leur dis que si les enfants sont bien entourés, ils vont réussir à 100%. Si l'enfant ne voit plus son handicap, ça va devenir une force. Il va mettre les bouchées doubles. Être entouré et prendre soin de soi. Sa famille et le sport sont les deux autres passions d'Hafsa. Elle vit au Québec avec sa mère, sa sœur et son neveu, qui sont très importants pour elle. Pour ce qui est du sport, son assiduité dans deux ligues de para-hockey à Montréal et Laval depuis 2002 et son intérêt pour le ski alpin adapté depuis 2009 lui donnent la forme nécessaire pour rester en bonne santé et se déplacer en fauteuil manuel. La pratique du hockey lui donne beaucoup de force dans les bras. Le premier but d'Hafsa est de rester en bonne santé pour pouvoir prendre soin des gens qui l'entourent et continuer à exercer son métier qu'elle aime passionnément. Elle s'y sent bien entourée et reçoit de l'appréciation. Et finalement, c'est ça qui compte. Ce n'est pas le titre qui compte. C'est d'être bien entouré et apprécié qui est le plus important. Hafsa, la militante, engagée pour les autres. Hafsa s'engage depuis plusieurs années pour la cause des personnes en situation de handicap. Celle des femmes lui tient particulièrement à cœur. Les femmes en situation de handicap s'expriment maintenant dans tous les domaines. Les femmes enceintes, les femmes monoparentales, les femmes de carrière. Les idées ont percé et les femmes vont de l'avant avec une mission et une parole. Elles demandent des droits. Il y a 10 ans, personne n'en parlait. Maintenant, il y a des pétitions et d'autres actions, se réjouit la militante. Elle reconnaît cependant que beaucoup de droits ne sont pas encore acquis, qu'il reste encore du travail. Travail qu'elle entreprend notamment avec Mémo QC au sein du comité consultatif et du comité de sensibilisation aux droits et besoins des personnes en situation de handicap. Pour Hafsa, les changements se font progressivement et il est important d'aller jusqu'au bout, sans force, doucement, comme elle le fait au travail. C'est l'engagement et la persévérance qui comptent. Pour Hafsa, qui pense aux autres, à la relève, il est important de s'engager, de relever des défis pour améliorer la vie des autres. Il ne peut en être autrement. C'est ainsi qu'elle vit, qu'elle aime la vie et qu'elle a été éduquée. C'était Une carrière modèle faite de persévérance et de détermination, un texte d'Aline Van Coubernol, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Tout était prêt jusqu'à mon accouchement, un texte de Véronique Pagé, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Je vous invite à vivre un bout de mon histoire de maman qui vit avec une limitation et vous assure que devoir s'adapter à son nouveau rôle de parent à travers la réalité du handicap, ce n'est pas de l'incompétence parentale. Pour ceux qui me connaissent de près ou de loin, vous savez que j'ai toujours été portée par le désir de changer les mentalités et de sensibiliser le commun des mortels aux différences. Aujourd'hui, j'aimerais partager un bout de mon histoire de maman qui vit avec une limitation. Il y a 11 ans, Martin et moi prenions la plus importante décision de notre vie, celle de donner la vie à un autre être humain. Cette décision fut très bien pesée et réfléchie. Après 11 ans de fréquentation, nous étions prêts à devenir parents. Je sais, on n'est pas vite. Tout ça pour dire que c'était planifié, réfléchi et désiré. Étant née avec la paralysie cérébrale, je savais très bien que je devais me préparer à tous les défis qui allaient se pointer en lien avec ma limitation. J'ai donc fait des tests de pré-grossesse et consulté la clinique Parents Plus pour que tout mon environnement soit fonctionnel pour prendre soin de mon bébé de façon autonome. Et j'avais la chance d'avoir le support de mes proches. Tout était donc prêt, et comme tous parents, nous avions hâte au grand jour, celui où nous allions enfin accueillir notre bébé et découvrir le sexe, car nous avions décidé de ne pas connaître le sexe avant le jour de l'accouchement. Ma grossesse a été extraordinaire. Je n'ai pas eu de douleur, plus de spasmes, une forme incroyable. Je me suis rendue à la salle d'accouchement en marchant, malgré le fait que nous avions prévu d'avoir un nouveau fauteuil roulant manuel bien adapté à mes besoins. J'ai eu une gynécologue exceptionnelle, qui a eu un énorme respect et beaucoup de bienveillance. Nous avions beaucoup parlé de l'accouchement. Nous avions préparé tout ce que nous pouvions pour favoriser un accouchement naturel sans péridurale, puisque ce n'était pas souhaitable dans ma condition. Elle m'avait avisé que si je devais avoir une césarienne, la récupération serait plus longue pour moi et que je ne pourrais pas marcher pendant un bout afin de ne pas trop solliciter mes abdominaux. Voilà que tout était prêt. Cependant, mon utérus m'a joué des tours. Comme il restait toujours contracté, entre les contractions qui étaient aux minutes, le cœur du bébé s'est retrouvé en détresse et ils ont dû faire une césarienne d'urgence sous anesthésie générale. Ces minutes d'angoisse où on doit m'endormir sans même me dire un mot parce que les minutes comptent, sans mon conjoint à côté de moi et sans le bonheur d'entendre mon bébé naître, je n'oublierai jamais ça. Et j'ai pleuré longtemps lorsque je le racontais, comme si je revivais chaque fois ce moment de peur et de vulnérabilité. Les jours qui ont suivi à l'hôpital ont été extrêmement difficiles. Moi qui avais pris le temps de tout prévoir, j'étais déstabilisée par les émotions en montagne russe, par la douleur, par la fatigue, et je ne pouvais presque pas bouger. Mon médecin, qui, comme toujours, a été d'un grand soutien, nous a dit, à Martin et moi, que la réhabilitation serait probablement longue et, avec un petit sourire, elle avait annoncé à mon chum qu'il serait bien occupé dans les prochaines semaines. Nous avons donc convenu, tous les trois, que bébé William passerait les nuits à l'infirmerie pour que Martin dorme quelques nuits en attendant mon retour à la maison. Jusque-là, tout allait bien, et je sentais qu'on essayait de me mettre dans des conditions gagnantes. La suite ne fut pas aussi simple, car un accouchement, ce n'est pas une maladie. Césarienne ou pas, pas de passe-droit. Paralysie cérébrale ou pas. D'ailleurs, je pense que les infirmières n'ont jamais vu ce diagnostic à mon dossier, ou bien elles ne se sont jamais demandé ce que ça pouvait impliquer. De ma chambre, qui était juste en face du poste des infirmières, j'entendais leurs commentaires lorsque Martin allait porter William dans son petit lit pour la nuit, à 23 heures, avant de me quitter. J'entendais « Qu'est-ce qu'il fait ici, ce bébé-là? » Et l'autre infirmière répondait « Il est là pour que le papa se repose, voyons. Le pauvre petit, il est fatigué. » Je vous laisse imaginer sur quel ton s'était lancé. Le lendemain matin, on me ramenait William vers 5h45, alors que Martin n'était bien sûr pas encore revenu, et William se trouvait dans son petit lit beaucoup trop haut pour que je puisse le prendre. Ce qui fait que je devais sonner pour qu'on me le donne, et ça pouvait prendre 30 minutes avant qu'on vienne. Tout ce temps, mon bébé pleurait sans que je ne puisse rien faire, et c'est sans compter la fois où on m'a oublié dans une chaise d'allaitement assez loin de mon lit, avec William dans mes bras. Je ne pouvais pas me déplacer, me lever, aller à la salle de bain, et ça a duré des heures. J'avais 34 ans quand j'ai accouché, et après 34 ans de vie avec ma limitation, je ne m'étais jamais sentie aussi handicapée. Je ne vous parle pas de tous les regards et les sous-entendus. Devoir s'adapter à son nouveau rôle de parent à travers la réalité du handicap, ce n'est pas de l'incompétence parentale. Si le personnel soignant avait été sensibilisé, imaginez tout ce qui aurait pu être évité. On a beau tout faire pour que notre environnement à la maison soit adapté, le séjour à l'hôpital fait aussi partie de l'expérience de devenir parent. Et les premiers jours de vie font aussi partie de l'accueil de ce nouveau petit être humain. Pour ma part, j'ai tellement pleuré pendant les premiers jours à l'hôpital. J'avais le sentiment qu'on m'avait un peu volé les premières minutes de vie de mon fils, celles qui devaient être vécues dans la joie. Des histoires comme la mienne, il y en a d'autres. Quand je les entends, je suis toujours aussi outrée de constater que le personnel soignant ne soit pas plus sensibilisé et que l'accompagnement des nouveaux parents ne commence pas au jour 1 de vie du bébé. Je suis portée par le désir d'accompagner les futurs parents et de continuer à changer les mentalités. C'était « Tout était prêt jusqu'à mon accouchement », un texte de Véronique Pagé, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Mes seins et mon utérus comptent aussi, un texte d'Adèle Liliane Ngo Mben Nkot, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Depuis près d'un an, l'un des dossiers prioritaires de Mémo QC est de mettre en lumière les inégalités d'accès dans l'obtention des services gynécologiques, oncologiques et périnataux pour les femmes en situation de handicap dans le système de santé québécois. Au sein de notre équipe, nous avons dorénavant un comité de femmes et handicap qui travaille sur cette problématique. Mémo QC a produit et diffusé la vidéo intitulée « Mes seins et mon utérus comptent aussi » au mois de mars dernier. Cette vidéo, vise à sensibiliser les élus, les leaders politiques et sociaux, ainsi que la société en général, au manque d'accès aux soins de santé spécifiques aux femmes qui vivent avec un handicap. Des femmes y témoignent de l'absence d'équipements adaptés et des délais inacceptables pour passer une mammographie ou une échographie. Elles dénoncent aussi la condescendance, la méconnaissance et l'ignorance du corps médical non spécialisé à leur réalité particulière. La vidéo a particulièrement touché l'équipe d'Action Cancer du Saint-Québec, ACSQ, avec qui nous avons mené conjointement la campagne de sensibilisation nationale qui vient de se terminer et dont la porte-parole a été Marjorie Aunos, une des participantes à la vidéo. La campagne s'étalait du 2 octobre au 9 novembre, octobre étant le mois de la sensibilisation au cancer du sein. La vidéo a été lancée par la diffusion d'un communiqué conjoint de MémoQC et d'ACSQ, signé par plus d'une vingtaine de groupes féministes, dont le G13, et ce, grâce au travail de notre partenaire. Le G13 est un collectif composé d'une vingtaine de groupes et regroupements féministes présents dans tout le Québec et qui œuvre à la défense des droits des femmes au Québec et au Canada. Hormis les groupes féministes pour femmes en situation de handicap avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, c'est une première pour MémoQC de travailler avec un groupe féministe et en plus d'avoir, grâce à lui, le soutien et l'appui des groupes féministes locaux, régionaux et nationaux. L'implication d'ACSQ nous a permis de faire la promotion de la campagne le 14 septembre lors du lancement de Montréal Féministe, événement organisé par la Table des groupes de femmes de Montréal. Toujours grâce à l'ACSQ, le 19 octobre, MémoQC, ACSQ et Marjorie Aunos ont fait une présentation devant le Comité régional en santé et bien-être des femmes de Montréal, qui regroupe des personnes de plusieurs CIUS de Montréal. Les personnes qui y assistaient étaient des membres du personnel de services régionaux, diversité et inclusion, et des personnes responsables de programmes de santé publique de CIUS. Nous leur avons présenté la mission de nos organismes, les enjeux rencontrés par les femmes en situation de handicap et des pistes de solutions. Nous y avons également diffusé le témoignage préalablement enregistré de Sarah Limoges, une des participantes à la vidéo. Durant ce mois d'octobre, nous avons dénoncé les injustices qui touchent les femmes en situation de handicap par trois actions. L'envoi de cartes à quatre ministres, l'envoi de vignettes via les réseaux sociaux et un rassemblement à la fin de la campagne. Pour ce qui est des deux premières actions, nous avons ciblé quatre ministres, Martine Biron, ministre responsable de la condition féminine, Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés et ministre délégué à la santé, Christian Dubé, ministre de la santé, et Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux. Nous avons convié nos partenaires, nos alliés et toute la population à envoyer une carte présentant nos revendications à ces ministres. Plus de 300 cartes, venant de partout au Québec, leur ont été envoyées par courriel. Au moins une dizaine de groupes communautaires et majoritairement des groupes féministes ont dénoncé ces inégalités et affiché leur soutien à la campagne en publiant des photos d'elles arborant nos revendications sur les réseaux sociaux. Enfin, le point culminant de la campagne a eu lieu à l'occasion d'un rassemblement sous la neige du 9 novembre en matinée devant les bureaux montréalais du ministre de la Santé, Christian Dubé. Cette action avait un double objectif. Le premier était de dénoncer haut et fort les inégalités que les femmes en situation de handicap subissent au quotidien, et le second, de déposer physiquement toutes les cartes qui ont été envoyées électroniquement pendant la campagne. Malheureusement, le second objectif n'a pas été atteint. En effet, la sécurité et la police nous ont bloqué l'accès au bureau du ministère, prétextant que personne n'était présent pour nous recevoir. Néanmoins, nous poursuivons des démarches afin de les lui remettre et nous continuons à recueillir des signatures. Notons que durant tout le mois, nous avons écrit des lettres aux quatre ministres en espérant en rencontrer au moins un. Hélas, ces lettres sont toutes restées sans réponse. Nous avons multiplié les relances auprès du cabinet de M. Dubé jusqu'aux dernières heures précédant la manifestation, sans succès. Près d'une quarantaine de personnes étaient présentes à la manifestation, des membres, des employés de Memo QC et d'ACSQ, ainsi que nos alliés. Nous ne saurions terminer sans souligner la présence de représentantes politiques de Québec solidaire, notamment Charline Robert-Lamy, attachée politique de Ruba Gazal, et Marie-Ève Rousseau, attachée politique de Vincent Marissal. Mégane Perry-Mélenchon, porte-parole nationale du Parti québécois en matière de conditions féminines, et sa collègue, étaient également présentes. Au regard des actions que nous avons menées pendant ce mois, nous sommes profondément reconnaissants du travail de notre partenaire, ACSQ, à mobiliser les groupes féministes et du travail de Mme Onos tout au long de cette campagne. Nous sommes aussi très reconnaissants du soutien et de l'appui des groupes communautaires féministes, des personnes en situation de handicap, ainsi que de la population en général. Nous savons que l'opinion publique appuie et soutient ces femmes. La présence de deux partis de l'opposition nous montre également que ce dossier est d'actualité. Nous poursuivrons le travail de sensibilisation tout en menant des représentations au sein des instances concernées afin que les femmes en situation de handicap obtiennent les soins qui répondent à leurs besoins spécifiques. C'était « Mes seins et mon utérus comptent aussi », un texte d'Adèle Liliane Ngo Nben Nkot, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad.